Palais de justice, cour d'assises de Paris, 15 octobre 1986, 18h25.
Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter ?
Non, monsieur le président, répondent en chœur les deux hommes qui se trouvent dans le box.
La cour se retire pour délibérer. Garde ! Faites sortir les accusés.
Les mots claquent comme un coup de fouet. Au premier rang, deux yeux bleus accompagnent de leur haine les hommes qui s'éloignent, encadrés par des policiers en tenue. Dans un brouhaha, les jurés se lèvent et quittent la salle d'audience un à un. Maître, d'après vous, combien de temps doit durer la délibération ? Monsieur Delanneau, je ne peux vous le préciser avec certitude. Tout dépend des jurés, mais aussi du président, car il va se trouver avec eux dans la salle des délibérations. Il vous faut patienter. Je vous conseille, allez prendre un verre au bar, juste en face du palais. Ou bien attendez dans la salle des pas perdus, mais cela n'est pas très réjouissant. La salle des pas perdus. Étrange nom, ne croyez-vous pas ? Cette salle est-elle le lieu de rencontre de tous ceux qui ne se sont pas égarés, ou au contraire est-elle un lieu de perdition ? Comme si en justice on pouvait perdre quelque chose. Monsieur Delanneau, vous savez, la justice est faite pour et surtout par des hommes. Il peut parfois s'y glisser des erreurs, tout comme on a le droit de penser qu'elle est parfois complaisante envers certains. Normalement, on doit y trouver la vérité, et rien ne s'y perd. Mais tout se transforme, parfois à notre insu, maître, mais jamais de notre plein gré. Vous me semblez bien désabusé. Que diable, ayez confiance. Ils seront condamnés. Malheureusement, je ne peux rester, je dois vous laisser. Comprenez que les affaires m'appellent. Je fais un saut au cabinet et dès qu'on m'avertit, je suis de retour. Au revoir, monsieur Delanneau, et surtout, surtout, gardez espoir. Je comprends, maître. À tout à l'heure. Il est là, assis, sur un banc. Dans cette salle en effervescence où se croisent rapidement des hommes et des femmes en robe noire, qui, avec son téléphone portable collé à l'oreille, qui, avec son attaché case bourré à en faire craquer les coutures. C'est l'endroit où le meilleur peut côtoyer le pire, celui où se font les destins et se brisent les rêves. Grand, mince, enveloppé dans un manteau noir de bonne facture, il fixe un point devant lui. Un instant, ses yeux bleus semblent noyés de larmes, les rides de son front s'accentuent, ses lèvres ourlées se pincent, sa respiration s'accélère. L'homme souffre. Il voyage dans un passé douloureux, un passé qui a vu sa vie s'arrêter le 7 septembre 1985, quand son épouse et sa fille ont péri, fauchés par un motard en fuite après un hold-up. Il se souvient de cette journée d'automne. Encombrés par leurs achats, Caroline et Amandine se promènent main dans la main. Sur le passage clouté, alertée par une sirène de police, Caroline voit débouler une moto lancée à vive allure. Bien calé sur le siège, un homme casqué, vêtu de noir, noir comme sa moto, fonce sur elle. Les pneus crissent sur le bitume. « Amandine, attention, non !» Quelques secondes plus tard, c'est le drame. La puissante cylindrée fauche les deux passantes, percute la jeune femme et projette à plusieurs mètres l'enfant qui, quelques secondes plus tôt, sautillait au bras de sa mère. Malgré la violence du choc, comme par miracle, le conducteur redresse son engin de mort et disparaît dans le vrombissement du moteur lancé à son maximum avant que la voiture de police ne stoppe sur le lieu de l'accident. Les services de secours ne pourront que constater le décès des deux personnes. Deux vies fauchées. L'une était âgée de 33 ans, l'autre, encore à l'aube de sa jeunesse, n'avait que 7 ans. Malgré le témoignage d'un passant, le propriétaire de la moto n'a pas pu être retrouvé, le numéro d'immatriculation s'étant révélé faux. Heureusement, 3 semaines plus tard, le hasard faisant bien les choses, permet à un inspecteur plus zélé que les autres de faire le lien entre cet accident dramatique et deux crémations de moto découvertes, l'une dans la forêt de Compiègne et l'autre dans le bois de Boulogne. L'enquête a montré par ailleurs que les deux garde-boue ainsi que les deux roues avant ne se trouvaient pas sur les carcasses. Grâce au numéro de série identifié sur les blocs moteurs, numéro mal limé par ceux chargés d'en faire disparaître toute trace, cet inspecteur a pu ainsi remonter jusqu'au propriétaire des motos. Il découvre que ces deux 1100 Kawasaki, de couleur noire, ont été déclarés volés le même jour dans deux commissariats différents, que leurs propriétaires ont été compagnons de cellule 2 ans auparavant et surtout qu'ils n'ont aucun alibi tant pour la journée du braquage que pour l'accident mortel. Voilà bien des coïncidences. Des présomptions et non des moindres vont peser maintenant sur ces deux hommes. Depuis plus de 21 mois, il possède ces engins. Bien que ce soit des motos prisées par les voleurs, jamais la propriétaire n'eut à subir une dégradation quelconque, ni un vol au cours de cette époque. Chose étrange, elles furent volées de concert le même jour, mais dans des lieux différents. Pourrait-on y voir l'action d'un gang organisé qui ne vole que cette marque ? Ou n'est-ce pas plutôt un plan mûrement réfléchi ? Car comment expliquer qu'il manque les roues avant et les garde-boue sur les deux motos, si ce n'est pour cacher d'éventuelles traces de choc ? Quelle est celle qui a causé l'accident mortel ? Laquelle a servi pour prendre la fuite après le hold-up ? Y a-t-il eu deux motos, donc deux pilotes ? Si oui, lequel a braqué ? Toutes ces questions ont fait l'objet de suspicions de la part du juge d'instruction, mais sans jamais pouvoir y apporter de réponse cohérente. 48 heures après leur arrestation, les deux hommes seront déférés devant un juge d'instruction qui les placera sous mandat de dépôt. Incarcérés à la prison de la Santé à Paris, ils ne cesseront durant ces longs mois de clamer leur innocence. « Monsieur le Président, si on n'avait pas d'alibi, c'est parce qu'on n'en avait pas besoin. Il n'y a que les coupables pour en avoir ou s'en fabriquer. Hein. » « C'est un crime que deux anciens taulards restent potes après leur libération, dirent-ils ? » « Monsieur Delano, les jurés viennent de terminer, il faut entrer. »« Excusez-moi, maître Rombard, je me suis assoupi. »« Quelle heure est-il ? » ?»« 21h10, ils ont fait vite. »« Est-ce bon signe ?» demande Hugues Delano. « Je ne sais pas. Nous verrons bien. On ne peut savoir ce que pensent les neuf jurés. » Une fraction de seconde, une expression de malaise se dessine sur le visage de l'avocat, grimace qui n'échappe pas au regard d'aigle duc de l'anneau. Une sonnerie, puis...
« Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour la cour. »
La suite relève du cauchemar. Dans un tourbillon de mots, il ne retient que... Bien que le passé ne plaide pas en faveur des accusés Roland et Couty. Crime d'attaque à main armée suivi de mort sans intention de la donner. Aucun témoin n'a pu apporter la preuve qu'un des accusés a commis le braquage. Suspicion. Caroline Laurent, épouse de Lano. Amandine de Lano, délit de fuite. Malgré les aspects étranges relevés au cours de l'enquête, le jury populaire a rendu son verdict et déclare les accusés non coupables et les acquittent de toute charge. L'affaire est close.
Assassin ! Assassin !
Hurle Hugues Delano. Les mots claquent couvrant le brouhaha de voix à l'énoncé du verdict. Sans un regard pour le monde qui l'entoure, il court vers le parking, récupère sa vieille Jaguar Mark III et dans le chuintement des pneumatiques s'enfonce dans la nuit. Vers 5 minutes.